Le 24 septembre dernier, dans le cadre des correspondances de Manos, nous recevions avec d'autres invités Hervé Le Tellier qui a obtenu hier le prestigieux prix Goncourt 2020. Nous allons rediffuser ce grand moment de radio et de littérature où Hervé Le Tellier a parlé de son roman L'Anomalie, paru chez Gallimard et aujourd'hui récompensé de belle manière. Mais en septembre dernier, l'auteur et président de l'Oulipo a accompagné la plasticienne et écrivaine Clémentine Mélois pour la sortie d'un roman collectif auquel elle a prêté sa plume avec d'autres oulipiens pour prolonger un livre inachevé de Boris Vian, On n'y échappe pas, publié chez Fayard. Il évoque aussi l'anomalie dont tout le monde parle désormais et dans la rencontre sur Fréquence Mistral, on découvre un écrivain malicieux et profond, pétri d'humour et d'intelligence. C'est l'extrait que nous allons entendre en vous recommandant de lire le nouveau prix Goncourt et de pénétrer sans retenue dans cet univers étrange de l'anomalie. La rencontre avec Hervé Le Tellier sur Fréquence Mistral est animée par François Malabave qui commence par interviewer Clémentine Mélois à qui l'on doit l'affiche du festival littéraire Manosquin pour l'édition 2020.
Elle est plasticienne, oulipienne et écrivaine. Elle vient de publier Dehors la tempête chez Grasset et elle est présente à plusieurs titres dans les correspondances 2020. Et c'est avec quelques mots inhabituels dans mon style d'animation que j'accueille Clémentine Mélois. Bonjour envoûtante beauté. Ça va bien Clémentine ?
Bonjour mystérieuse créature.
C'est évidemment une citation de l'affiche de Clémentine, l'affiche des correspondances 2020. Une affiche qui est très dynamique, fantaisiste, qui n'a pas fait l'unanimité, vous le savez aussi, où vous, pour la première fois, on a rajouté du texte à une affiche. C'est assez rare pour un festival littéraire. C'est vous qui avez eu cette idée de rajouter du texte à cette affiche avec un style très, on va dire, un peu très italien des années 60, en quelque sorte, avec ce couple particulier.
Ouais, ça, c'est une référence à l'esthétique des romans photos. Les affiches des éditions précédentes avaient été faites par Charles Berberian, et je ne pouvais pas rivaliser avec lui pour ce qui était de la beauté, de l'élégance. Donc, j'ai fait de la fantaisie. Donc l'esthétique, effectivement, est discutable. C'est très kitsch, c'est très coloré, mais pour moi, une affiche, ça a vocation à être vue de loin et à marquer. Donc j'ai pris ça et je me suis amusée parce que, pour beaucoup, les correspondances, le milieu littéraire, la rentrée, c'est quelque chose un peu solennel, c'est quelque chose où on est un petit peu sérieux. Je me suis amusée justement à prendre l'esthétique des romans photos qui m'intéresse particulièrement. Mais j'ai inversé, c'est la femme qui dit à l'homme bonjour envoûtante créature. Si on peut replacer dans une phrase bonjour envoûtante créature, je suis toujours contente. Donc voilà, c'était l'occasion.
Et ça termine par éblouissante en plus. Donc ce sont des termes qu'on aime bien et qui vont bien dans le cadre aussi de ce festival. Dans ce festival, il y a plusieurs choses qui vous concernent. Clémentine, il y a évidemment l'exposition des 100 titres. C'est à la Maison des Jeunes à Manosque, juste à l'entrée du festival et des soirées du festival. Il y a aussi votre participation avec Hervé Le Tellier qu'on écoutera dans un instant aussi sur le livre qui est paru par publié chez Fayard, On n'y échappe pas, nous allons en parler. Et puis, il y a votre livre, Dehors la tempête. C'est paru chez Grasset, c'est un livre magnifique qui raconte votre rapport à la littérature et tout simplement au livre, le rapport au livre, la naissance de Clémentine au livre qui a lieu à l'âge de 8 ans et demi quand elle gagne le concours Gallimard Jeunesse doté d'un magnétoscope, mais surtout de 365 livres un par jour pendant un an. Votre vocation était née.
Non, mais j'ai appris à lire à 6 ans au CP, hein, comme tout le monde. Mais non, effectivement, j'ai gagné un concours d'écriture. Mais c'est marrant parce que j'en parle parce que c'est intéressant parfois de. On se dit s'il y a des mythologies fondatrices, j'y crois pas tant que ça. C'est une jolie histoire. J'aimais déjà beaucoup lire. J'étais dans une famille où on était très nourris. Par la lecture, il y avait des livres partout, mais néanmoins, je pense que c'est une image qui marque de recevoir, quand on est déjà une enfant qui aime lire, de recevoir des cartons entiers de livres, c'est quelque chose d'important. Donc, a posteriori, on peut se dire que quelque chose est né ce jour-là.
Vous les avez gardés ?
Je les ai gardés.
C'est bien, c'est une bonne chose.
C'est assez... Oui, je dois dire que je suis assez fière de moi parce que pendant les déménagements, ça pèse assez lourd.
Oui, c'est vrai. Et puis, vous avez dû en avoir d'autres aussi, des livres.
Quelques-uns.
Et c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, vous aimez aussi l'odeur du livre. Vous aimez la première phrase de l'aventure d'un roman. Vous citez des phrases de Flaubert, Proust, Gary, Camus, Claudel. Et puis, vous aimez aussi les grands marins. Les grands marins. Et ça nous parle un petit peu aussi, un certain Ismaël, mettons. Mettons, hein, vous voyez ce que je veux dire, Martin Eden, Nelson, etc. L'imagination débridée et ce côté petite fille. Alors il y a un passage que je vais vous lire qui est assez intéressant, qui concerne l'alimentation. Alors vous ajoutez évidemment votre caractère très fantaisiste aussi à ce que vous dites, et vous allez voir, vous allez vous rendre compte. En hiver, à parfois manger trop de raclette et pas assez de légumes, j'ai peur d'attraper le scorbut, comme l'équipage de la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Le programme national nutrition, santé, manger, bouger serait d'ailleurs plus convaincant si nous étions ainsi mis en garde. Mangez 5 fruits et légumes par jour, sinon vous perdrez vos dents et vos cheveux, puis vous mourrez comme l'équipage de Christophe Colomb. Le capitaine Cook, lui, donnait à son équipage de la choucroute et des fruits frais pour lutter contre cette maladie, mais peut-être ne serait-ce pas utile de le préciser dans le programme. Les gens comprendraient de travers et se mettraient à manger de la choucroute à tous les repas, ce qui n'est pas le propos. On voit bien, Clémentine, votre fantaisie, là.
Oui, effectivement. Comment dire non ? J'avais envie d'écrire un livre où on serait dans la tête d'un lecteur et où on suivrait les digressions et le moment où l'esprit se met à divaguer, au moment ce qui se passe quand on est en train de lire un livre. Et donc, j'ai pris le lecteur que j'avais sous la main, c'est-à-dire moi-même, mais je, en racontant des anecdotes et en racontant tout ce qui se passe dans ma tête quand je lis des grands classiques, j'espère toucher à l'universel de la lecture. Et j'espère que c'est un livre qui parle à tous les amoureux de la lecture. Peut-être que tout le monde ne pense pas qu'ils vont attraper le scorbut s'ils ne mangent pas de fruits et légumes, mais je sais que tous les gens qui apprécient les romans d'aventure maritime dont je parle ont ressenti ça ou ont eu l'impression d'être embarqués sur le Pequod, dans les Moby Dick. C'est la force de la littérature et c'était ça que j'avais envie d'évoquer, en fait.
Vous avez proposé cette idée à une agence de publicité, par exemple, pour tout simplement faire évoluer ce manger-bouger ?
Non, alors je fais pas dans la publicité, je suis artiste, vous savez, on est un peu en décalage avec ça, mais c'est dommage parce que ça aurait été une bonne idée.
Alors, vous aimez aussi, Clémentine, les listes, vous aimez les énumérations, ainsi dites-vous, le monde est bien rangé, donc ça c'est bien. Vous aimez aussi les recherches qui peuvent paraître insolites, comme le prix et la quantité d'alcool ingurgité par Maigret en une journée dans un roman de Simenon. Il a, selon vos calculs, bu pour 84 euros d'alcool divers, calva, whisky, bière et grog, car il est enrhumé, et ça lui fait un taux d'alcoolémie de 2,85 g dans le sang. C'est pourquoi il ne conduit pas. Et c'est pas un détail.
Non, non, 84 euros si il commandait dans un bar... À l'Île-Dieu, parce que j'étais serveuse à l'Île-Dieu, donc c'est les prix de là-bas. Je pense qu'à Paris, il en aurait pour plus cher, beaucoup plus cher. Et non, non, il tient vraiment bien l'alcool. Je pourrais pas le suivre, même une matinée, je pense que je m'écroulerais.
Mais en même temps, il faut pas monter avec lui en voiture.
Hein. Mais il a pas son permis, il se fait toujours conduire, donc à mon avis, c'est pour ça. Moi, je propose des pistes de réflexion, après, on en fait ce qu'on en veut.
Alors justement, comme piste de réflexion, c'est un deuxième extrait que je vais lire. Je pioche un petit peu dans votre livre. Je rappelle, c'est « Dehors la tempête » chez Grasset. Et c'est dans le chapitre « Diversion » justement. C'est l'une des utilités de la lecture. « Je lis pour faire diversion, dites-vous. Détourner ma propre attention et essayer d'oublier un instant l'absurdité du monde. Tromper l'ennui, c'est la journée la plus longue du siècle, longue comme une réunion de travail quand le tour de table dure des heures et des heures et des heures. On ne voit pas le bout du tunnel, c'est le désert des Tartares, l'attente est insupportable, la pièce mal aérée sent le terrier de renard et le mauvais après-rasage, le mobilier de bureau est à pleurer de grisâtre administrative, on a des impatiences dans les jambes, mais hors de question d'aller faire un tour, nous sommes irrémédiablement captif. Le pire, c'est que les autres ont vraiment l'air d'y croire. Ce n'est pas possible, ils doivent faire semblant. Est-ce qu'ils y croient ? Vraiment, personne ne semble douter un instant de l'absolue nécessité de ce que nous sommes en train de faire. Perplexe, on scrute les regards sans parvenir à y déceler la moindre lueur d'ironie, le moindre signe d'un jugement critique, d'une distance amusée. Ça, c'est la diversion. Et puis, il y a une petite suite aussi que j'aime bien, toujours dans ce paragraphe de la diversion. Je voudrais qu'on m'emporte ailleurs, très loin d'ici, dans un style bien tourné. Je voudrais qu'on me raconte une histoire. Je voudrais de belles phrases et des baisers enflammés. Je voudrais un feu de cheminée. Je voudrais des chaussons fourrés et du suspense. Je voudrais de l'aventure. Je voudrais du doute, de l'introspection et un vent chargé d'embrun. Du crépuscule et de la mousse humide, de la passion et du mystère. Je voudrais des pirates et des dragons. Je voudrais un plancher qui craque, une étoffe qui bruisse. Je voudrais un drame terrible et un dénouement superbe. Je voudrais de l'exaltation. Je voudrais des larmes et que tout ça sente l'encre, l'océan, la sueur, le sous-bois et la fumée. Donnez-moi tout de suite un livre et à la rigueur une biscotte pour grignoter avec. La biscotte, ça va avec le livre, évidemment, Clémentine.
J'aime beaucoup cette phrase de François Truffaut qui dit à Jean-Pierre Léo, il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Un film, c'est comme un train qui file dans la nuit. Et c'est la même chose pour les livres. Il n'y a pas de réunion emmerdante. Il n'y a pas de facture à régler. Il n'y a pas d'emmerdement. Et les histoires dans les livres, c'est des trains qui filent dans la nuit. Et c'était un petit peu ça que je voulais raconter à travers ça.
Il y a une part des trains et de la gare dans votre livre, d'ailleurs. Beaucoup de choses qui se passent dans des gares et au détour d'une évocation d'Italo Calvin, aussi par Une nuit d'hiver, un voyageur.
Vous le dites bien.
Le temps qui passe, comment ?
Vous le dites bien.
Italo Calvino. Et donc, si par une nuit d'hiver un voyageur, un jour on croise son reflet dans une vitre et l'on croit reconnaître sa mère. On n'est plus la personne qu'on croyait être. On ne s'est pas vu changer. Le train du temps est passé dans la gare de la vie, comme dirait le poète. C'est bien dit, c'est bien dit. Clémentine, il y a un côté poétique chez vous aussi ?
Oh bah, c'est... Ce genre de poésie, le train de la vie est passé. C'est quoi ? Je sais même plus ce que j'ai écrit. Il y a un peu de second degré dans ma poésie.
Le train du temps est passé.
Le train du temps est passé dans la.
C'est beau, hein ?
Non, c'est beau. Je suis tellement émue que j'arrive même pas à me redire. Non. Merci Hervé, ça me fait plaisir.
Il va vous donner un petit coup de main, Hervé.
Je suis assis sur le banc de la vie et je regarde passer les passants du temps. Ça marche avec tout, en fait. Je suis assis dans la cafétéria de la vie et je mange le sandwich du temps. Enfin, vous voyez ça.
Alors, quand on dit ça marche, justement, le verbe marcher prouve quand même que c'est pas immobile. Et en même temps, c'est curieux. Il faut faire très attention. Vous adorez les premières phrases, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, il y a quelques.
Je les adore pas particulièrement, mais je pense que les incipits, on s'en souvient. Et c'est des. Longtemps je me suis couché de bonne heure. On peut ne jamais avoir relu Proust, puisqu'il paraît que Proust se relit, mais, plutôt que se lit, mais tout le monde le connaît.
C'était à Mégara, par exemple, aussi.
Faubourg de Carthage, évidemment.
Et oui,
ça devient mythique.
Et aujourd'hui, ma mère est morte, etc.
Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais plus.
Des tas de phrases qui font partie de notre héritage aussi littéraire. Vous avez un rapport aussi qui est un rapport physique avec le livre. Dès les préliminaires de votre livre, vous le dites. D'abord, j'ouvre le livre en grand et je colle mon nez au milieu des pages pour les respirer. Chaque édition a son identité olfactive très singulière, faite d'encre grasse, de papier et de moisissures. Mes souvenirs de lecture sont indissociables de l'odeur des livres. L'île au trésor a son odeur de foin rance. Le Seigneur des Anneaux a son odeur de grenier chaud. 20 000 lieues sous les mers a son odeur de biscuit goudron. Et lorsqu'il m'est arrivé de les relire dans une autre édition, c'est comme si quelque chose clochait, comme s'il manquait un truc. Comme un café servi dans un verre à eau ou du vin dans une tasse à thé. Ayant toutefois conscience de la bizarrerie de cette manie, je fais en sorte que personne n'en soit témoin. La littérature et la lecture, c'est un acte individuel et singulier.
Individuel, mais qu'on peut partager. On peut partager l'émotion qu'on ressent et les souvenirs. Et c'est au contraire quelque chose d'extrêmement... C'est pas une aventure personnelle, non, je crois pas. D'ailleurs, c'est ce dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est pourquoi il y a les correspondances. C'est pour ça qu'on en parle, qu'on en discute. Non, je pense que c'est une expérience universelle.
Et donc, vous avez déjà bu du vin dans une tasse à thé ?
Ouais, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça me perturbe beaucoup.
Avec vous et Clémentine Mélois, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes oulipienne, autrement dit l'ouvroir de littérature potentiel. Et avec vous, un de vos collègues oulipiens et un oulipien de premier plan, c'est Hervé Letellier. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici même. Vous avez écrit, vous publiez dans votre actualité l'Anomalie, mais surtout vous avez écrit avec Clémentine Mélois qui nous a fait une magnifique couverture d'un livre très étonnant. Ça s'appelle On n'y échappe pas. C'est paru chez Fayard. C'est tout simplement un livre de 4 chapitres d'un roman commencé par un certain Boris Vian et inachevé. Les membres de l'Oulipo se sont chargés d'inventer une suite. C'est plutôt réussi, mais on pourrait cependant penser que remplacer Vian, c'est prétentieux et vaniteux.
Oui, mais en l'occurrence, on ne remplaçait pas Vian. C'est ça l'avantage de la chose. On nous présentait quelque chose qui était ce que faisait Vian, qui était lui-même un pasticheur, qui était quelque chose qui s'apparentait à du Vernon Sullivan. Donc on ne nous a pas confié le soin de faire une sorte de deuxième arrache-cœur ou de deuxième écume des jours ou automne à Pékin, mais plutôt de travailler sur un pastiche et donc de faire ce qu'on peut appeler un pastiche de pastiche, c'est-à-dire un livre de Vernon Sullivan, qu'aurait pu écrire Vernon Sullivan, qui est donc le pseudonyme que prenait Vian lorsqu'il travaillait au Scorpion. Et c'est là-dedans qu'on s'est engagé, c'est-à-dire poursuivre un projet qui était un projet avant tout de romans policiers noirs des années 50, que c'est un livre qui se trouve plutôt dans la lignée de Mickey Spillane et autres, et c'est ça qu'on s'est engagé à faire.
Comment est-ce que vous avez procédé avec plusieurs plumes? Comment est-ce que vous avez créé un comité de rédaction pour On n'y échappe
Alors,
pas?
L'Oulipo étant une organisation extrêmement structurée, nous avons fait une co-commission. Cette co-commission comptait 6 membres, dont Clémentine et moi étions, et qui avons, à partir des 4 premiers chapitres, et d'un synopsis, parce que Boris Vian avait laissé un synopsis, on s'est engagé à suivre intégralement le synopsis, à ne rien changer aux 4 chapitres de Vian, bien que Fayard et les héritiers Vian, ce qu'on appelle la cohérie Vian, nous en aient donné l'autorisation. On est resté sur ces 4 premiers chapitres intégralement, et on a poursuivi. Voilà, en enrichissant beaucoup, beaucoup, beaucoup le synopsis, ce qui était une nécessité par rapport à ce qu'on avait au départ. Chacun d'entre nous ensuite a écrit un chapitre. Deux ou trois chapitres. Voilà, en tout, je crois qu'il y a 18 chapitres, 19 chapitres, je ne sais plus exactement. Et puis après, on a relu et on était catastrophés. On s'est dit, oh, ça ne marche pas du tout. Voilà. Et donc, on a repris. On a, pendant 2 mois et demi, on a tout réécrit pour que ça fasse quand même un livre extrêmement fluide, un livre qui est vraiment dans la lignée des polars de l'époque, qui obéissent à un certain nombre de règles. On s'est fixé des logiques qui sont la présence des musiques de Vian, la présence de la guerre de Corée, qui est très centrale, et puis du machisme.
J'ai beaucoup insisté.
Clémentine a insisté pour le machisme. Voilà, qui était contextuel, qui était de l'époque, donc sous son contrôle, un certain machisme a été insufflé dans toutes les pages du Vian. C'est-à-dire que les filles, par exemple, sont rembourrées aux bons endroits, voilà. Enfin, je passe sur les détails des choses, mais enfin, c'est ça l'idée, quoi.
C'est un livre, effectivement, qui est réussi, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. C'est réussi parce que ça se lit de bout en bout. On commence par Vian, on finit par l'Oulipo, pourquoi pas. Et en même temps, c'est une histoire relativement sombre, mais à la Vian, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnages, il y a du drame également. L'histoire, c'est l'histoire de Frank Bolton, qui est de retour de la guerre de Corée, vous l'avez dit, il est handicapé. Il manque sa main gauche. La main gauche qui est en fer.
Mais elle est en couverture.
Elle est en couverture, en noir sur du rouge, en plus. C'est bien vu. C'est presque stendhalien d'ailleurs. Mais bref, une série de meurtres de femmes horriblement mutilées à Black River, c'est sa ville. Il les a fréquentées de très très près. On peut dire. Sa famille, Sally, sa belle-sœur, est veuve de son frère. Et puis, il y a aussi Narcissus, le détective Carmen, sa maîtresse. Frank était un tombeur quand il habitait Black River. Et l'hécatombe se poursuit. La shérif qui enquête sur le meurtrier en série, c'est une ex aussi de Frank. Enfin, bref, on a beaucoup de choses. Et puis, on a beaucoup d'humour dans ce livre. Par exemple, au niveau du style, Frank se retrouve à la maison et suite à un mensonge de Narcissus, il y a Sally, donc sa belle-sœur, qui le gifle fortement, puis un peu plus tard sa mère, Vénice, et Frank qui dit elle aurait pu au moins changer de joue. Donc déjà, ça, c'est assez, assez curieux. Et puis, une autre citation, personne ne répond, il est au téléphone, et puis il pense à voix haute. L'ennui avec le téléphone, c'est qu'on ne peut pas flanquer son poing dans la gueule des gens. Ça, c'est du Vian aussi, quelque part. Clémentine.
Quoi?
C'est moi qui ai écrit ça?
C'est moi?
Oui,
ah
c'est vous.
Ah, mais ouais. Elle aurait pu changer de joue, c'est vous, je me
ça
souviens.
Ça, c'est moi,
oui. Ah ouais. Donc, ah, oui. Bon...
Juste, je peux me permettre de faire une remarque.
Oui.
On a été la Coërivian a sollicité, a contacté l'Oulipo pour nous proposer de terminer ce livre. C'était assez intimidant. Mais la raison en est historique, c'est que Boris Vian est mort en 59, un an avant la fondation, la création de l'Oulipo, et qu'il aurait fait très certainement partie des membres fondateurs. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu une histoire familiale.
Il y a une filiation.
Voilà.
Ouais. Hervé, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Sur ce Vian, mais je pourrais parler pendant des heures de ce travail.
Et on n'a pas le temps.
Admirable.
Hein. Bon, malheureusement.
Bah, alors non. Alors finalement non.
Mais puisqu'on est effectivement dans une période où on fête le centenaire de la naissance de Boris Vian, qui est mort à 39 ans, qui était aussi un excellent musicien, il faut pas l'oublier, un excellent jazzman, et qui savait qu'il allait mourir assez tôt, relisez Vian, relisez-le.
Alors ce que je peux ajouter quand même là-dessus, et ce qui me paraît important, c'est que Vian est une victime tout de même des éditeurs. C'est-à-dire que c'est quand même un homme qui a arrêté d'écrire en 1953 parce que tous ses bouquins étaient refusés. Et c'est vraiment c'est le drame en fait de la littérature et des amoureux de Vian aujourd'hui, c'est qu'il a été découragé par un certain nombre de refus. Et c'est vraiment dommage parce que c'est évidemment quelqu'un qui avait une carrière à faire dans cet univers-là et qui s'est, à partir de 1953, réorienté entièrement vers la musique. Alors, tous les gens qui aiment la musique et Vian sont extrêmement heureux, et tous ceux qui aiment Vian littérateur sont extrêmement tristes, parce qu'évidemment, il s'est arrêté d'écrire pendant 6 ans jusqu'à sa mort.
Alors, je ne vais pas vous poser la question des droits d'auteur pour savoir si ça va à l'Oulipo, à vous-même ou à la Coërie Vian.
C'est moi, uniquement moi.
Voilà. Alors justement, Hervé, vous allez garder la parole. Vous savez, j'ai une habitude ici même, c'est d'inviter les auteurs, mais de lire leurs livres, comme je viens de le faire avec Clémentine, comme je le ferai tout à l'heure avec Colombe Bonsen. Je n'ai pas lu, malheureusement, l'Anomalie qui est parue chez Grasset.
Non,
je le ferai plus tard.
On m'a parlé de vous, on m'a dit que quelqu'un dans ce festival n'avait pas lu ce livre.
Oui.
Et je le cherche depuis à peu près 2 jours.
Ça y est,
donc,
c'est fait.
Ouais, c'est vous.
C'est fait. Je suis désolé, mais par contre, je veux bien vous demander, si vous le souhaitez, Hervé Le Tellier, de nous parler de votre livre qui, je crois, a déjà de bonnes relations presse au niveau national.
Bon, c'est un livre qui, en fait, a deux sujets principaux, et je vais laisser ensuite les lecteurs potentiels imaginer ce que ça veut dire, ce que je vais dire. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de réel dans le monde dans lequel nous évoluons. C'est une première question que je voulais me poser. Et proposé à travers un livre un peu bizarre, avec de nombreux personnages, beaucoup, pas trop, hein, beaucoup de personnages, proposer ce qu'on appelle une expérience de pensée, c'est-à-dire se projeter dans une idée qui est accepter un phénomène et puis se dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi si ce phénomène était réel. Et puis la deuxième question que j'avais envie de poser dans ce livre, c'est la question de la confrontation à soi, mais vraiment à soi, c'est-à-dire d'imaginer qu'on est face à soi-même, mais pas face à un miroir, hein, face à quelqu'un qui est exactement nous, et comment est-ce qu'on réagirait face à cette personne, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, qu'est-ce qu'on est prêt à négocier, est-ce qu'on est disposé à accepter qu'il survive à notre propre existence, ou est-ce qu'on est prêt à aller plus loin et à le supprimer pour être seul à être soi. Voilà, et c'est cette proposition, disons, à la fois d'imagination et littéraire que j'avais envie de proposer au lecteur, avec l'idée d'un livre assez cinématographique, un livre assez qui à chaque fois, dont chacun des chapitres est vraiment extrêmement dans un univers d'images, avec cet enjeu qui est que l'image ne soit pas quelque chose qui arrête a priori l'écriture. Au contraire, que l'écriture vienne supplanter la puissance évocatrice d'une image possible, d'une scène à chaque fois. Chacun des chapitres, c'est vraiment une scène. Donc je voulais éviter que ça soit trop une scène en essayant de travailler beaucoup les genres. Et donc c'est aussi un roman sur les genres. Voilà.
Alors, vous le savez, je l'ai dit, mais je le répète, par honnêteté intellectuelle, je ne rebondirai pas sur ce que vous dites, si ce n'est que je lirai L'Anomalie, qui est paru chez Grasset.
C'est un livre chez Gallimard.
Chez Gallimard.
Ah, chez Gallimard, oui. Déjà, ça commence.
C'est un livre
gaffe.
C'est un livre qui ne se lâche plus.
Surtout, oui, mais ici à Manos, vous savez, Grasset Gallimard, hein, avec les aventures de Giono, on confond un petit peu tout ça. Donc, pardon pour ce lapsus, et en tout cas, merci Hervé Letellier.
Merci à vous.